Alain Vircondelet, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Voilà, on vous retrouve, Alain, pour ce troisième volet pour parler de ce dernier livre. Je crois que c'est bien le neuvième que vous avez écrit sur Saint Jean-Paul II.
Vous le dites, je pense que ça doit être ça, effectivement. Je me suis beaucoup attaché à ce saint et qui ne l'était pas encore, mais je me suis beaucoup attaché à ce pape qui, pour moi, a été un vrai déclencheur de, à la fois d'émotion, de spiritualité et aussi d'analyse, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. Nous avons là, en face de nous, dans cette œuvre qui demeure encore extrêmement vivante, une vraie théologie et un vrai enseignement, une vraie pastorale que l'on peut encore aujourd'hui écouter et suivre.
La maison de Carole, hein, enfant, c'était un sanctuaire, c'était une église domestique. Vous l'expliquez
oui,
très bien dans le livre.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose que son enseignement théologique, lorsqu'il était pape, relève effectivement de cette enfance et relève également de l'éducation qu'il a eue. Souvent, nous avons entendu le pape nous dire au cours de ses homélies ou au cours de ses voyages, faites le Christ en vous, soyez le sanctuaire, que votre corps soit le sanctuaire de Jésus. Donc, faites l'Église en vous. Vous voyez, cette nécessité de faire en sorte que l'Église devienne un élément important de notre quotidien. Eh bien, Jean-Paul II, à l'époque, donc, Carole Wojtyla, eh bien, avait a reçu une éducation qui a été dans ce sens-là. Ainsi, l'appartement qu'il occupait, qui était assez modeste, qu'il occupait dans une sorte d'entresol d'ailleurs, et qui, avec son père, particulièrement plus longtemps avec son père qu'avec ses deux parents, puisque la mère meurt lorsqu'il est très jeune, et en tout cas dans cette vie familiale, qui avait comme modèle l'image de piété qu'il a toujours révérée, c'est-à-dire la Sainte Famille, l'image que la peinture et le dessin Saint-Sulpicien ont multiplié à travers des milliers d'images pieuses qui ont été distribuées dans le monde entier à cette époque-là, eh bien, l'image de la Sainte Famille où l'on voit effectivement la mère Marie qui est très en train de filer la laine tandis que son mari qui est à côté abote une planche de bois, c'est Joseph, et puis il y a l'enfant Jésus qui est au pied et qui joue avec les copeaux que Joseph fait tomber à ses pieds. Et cette image pieuse, en fait, a forgé en Carole Wojtyla véritablement une histoire qu'il se devait de suivre. Et le père de Carole Wojtyla voulait absolument que l'Église ne soit pas seulement le lieu vers lequel on se dirige le dimanche ou à l'époque de Jean-Paul II, à l'époque de Carole Wojtyla, on y allait pratiquement tous les soirs, eh bien, l'Église n'était pas seulement un lieu à part, c'était aussi un lieu qu'on devait importer dans sa propre demeure. Ainsi, la salle commune plutôt, sa masse où il déjeunait, enfin, où il se retrouvait, c'était un véritable périple. Hein. À l'entrée, il y avait un...
Il y avait de l'eau bénite, je crois.
De l'eau bénite, évidemment. Oui. Il fallait se signer en entrant, parce que quand on entre dans la maison, disait le père de Carole Wojtyla, quand on entre dans la maison, effectivement, eh bien, c'est un lieu sacré. Hein, c'est un lieu sacré et qui donc dans lequel Dieu, dans lequel la famille croit abondamment, eh bien, dans lequel Dieu vit aussi. Donc, on bénit la maison en se signant en entrant. On bénit la table quand on déjeune ou quand on dîne, et puis le soir avant de se coucher, dans la chambre, eh bien, il y a aussi des bénitiers dans lesquels le jeune Carole Wojtyla trempait ses doigts pour se signer et faire une prière à genoux avec ses parents. Donc, véritablement, cette idée de faire l'Église en soi, faire l'Église en nous, mais aussi dans sa propre maison, est quelque chose qui est extrêmement incarné dans la famille Wojtyla et qu'il a essayé d'infuser dans tout le peuple chrétien lors de ses voyages pastoraux. Et il disait effectivement à tout le monde, il disait « Faites l'Église en vous et faites que votre maison soit un sanctuaire privé, un sanctuaire où Dieu habite. Et donc vous ne pouvez pas le violer, cet intérieur. Vous ne pouvez pas le profaner. Vous ne pouvez pas y avoir de mauvaises pensées parce que vous côtoyez, vous êtes dans le voisinage immédiat de Jésus. » Voilà quelle était la pastorale très humble et très simple, finalement, que Jean-Paul II a dit et qu'il a osé, parce que ça c'est aussi incroyable, qu'il a osé prononcer dans des sociétés qui étaient extrêmement déchristianisées et dans des sociétés qui, par le consumérisme frénétique et aussi par la fanation quelque part permanente dans laquelle les sociétés du capital vivent, eh bien c'était presque d'une audace et en même temps d'une révolution que de oser dire cela, hein, à la face de ces peuples qui souvent sont déchristianisés, comme il avait osé dire à Paris, « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Voilà cette phrase incroyable qu'il a prononcée à la face des dirigeants politiques qui étaient là et qui, de surcroît, n'étaient pas du tout chrétiens. Donc oui. Vous voyez, c'est cette audace-là qui est très forte et qui est très puissante et qui certainement a porté, par ce charisme qu'a porté Wojtyla, à la notoriété et à l'amour et à la vénération qu'on lui porte aujourd'hui.
Et alors Alain, justement aussi toute l'importance de la prière du rosaire apprise en famille, justement avec les parents, et puis quel est le lien aussi plus largement de Carole avec ensuite la Vierge Marie, et dans tout son pontificat par la suite.
Tout le temps, en fait, la Vierge Marie aura été l'accompagnatrice, la consolatrice au moment où sa mère meurt, où son père meurt. C'est vers elle qu'il se tourne, et particulièrement dès la mort de la mère, la Vierge Marie a remplacé la mère morte. Et donc, elle a eu à ce moment-là une importance majeure, elle est vraiment entrée dans sa vie. Et quand il pratiquait, comme il pratiquait le rosaire quasiment tous les jours, pour ne pas dire tous les jours, c'était une manière effectivement de se rapprocher de sa mère du ciel, comme il disait. Et le chapelet, le rosaire ont été toujours des outils, si j'ose dire, des outils de proximité pour rejoindre Marie. Il l'a prouvé quand il était jeune homme, je crois l'avoir raconté sur cette antenne même, lorsque Cracovie a été occupé par les nazis, il a, avec des amis, il a organisé un petit groupe de prières, et chacun devait avoir un chapelet dans la poche et tourner autour des remparts de Cracovie jusqu'à l'heure du couvre-feu pour enserrer Cracovie occupée par le mal, avec un grand M, était ceinturé de prières de la Vierge Marie. Donc il croyait, vous voyez, cette vision qu'il avait, qui est une vision à la fois poétique, symbolique, bien sûr, mais aussi dans laquelle il croit véritablement, il pensait véritablement, et je suis persuadé aussi que les gens qui prononcent le chapelet à Lourdes ou ailleurs, ils ont cette certitude-là, hein, d'être véritablement en conversation avec Marie. Eh bien, jeune Carole a toujours pensé que le chapelet était le médium pour pouvoir converser et entretenir une relation privilégiée, affective, avec Marie. Et dès le départ, il a été très proche donc d'elle, et lorsqu'effectivement lorsqu'il a prononcé ses vœux, eh bien, il a dédié, hein, son sacerdoce à la Vierge Marie, totus tuus, hein, ça a été sa devise, avec d'ailleurs la devise totus tuus, avec la lettre M comme Marie, aux côtés d'une croix. Voilà quel a été l'écusson, si j'ose dire, hein, l'écusson que le pape a fait graver à la fois quand il était prêtre, mais aussi quand il était évêque de Cracovie. Donc il y a véritablement un désir d'être en permanence avec la Vierge Marie. Alors tout au long de son sacerdoce et tout au long de son pontificat, la Vierge Marie a été au cœur, hein, de cette pastorale qu'il a propagée au sens propre du terme, comme on parle de propagande de la foi, eh bien propagée à travers le monde, et il a été un de ceux qui ont visité le plus de tous les papes de l'histoire contemporaine. Eh bien il a été celui qui a le plus visité les sanctuaires consacré à la Vierge Marie, ce qui est assez extraordinaire. Par exemple, pour Lourdes, hein, il a été celui qui a visité Lourdes de son vivant. C'est lui, c'est le seul qui ait fait ça. Hein. C'est pour lui, ça a été quelque chose d'extrêmement important, comme charge symbolique, de visiter les lieux emblématiques, que ce soit à Medjugorje, ou que ce soit à Lourdes ou à Fatima et d'autres encore, d'autres sanctuaires dans le monde.
Alors Alain, il y a quand même des images qui resteront dans les mémoires pour ceux qui les ont vues. C'est ce pape, à la fin de son pontificat, affaibli hein, par la maladie, qui continue jusqu'au bout. Hein. Parfois, on le porte, je crois que de temps en temps, il est arrivé de faire quelques chutes, mais il est allé vraiment jusqu'au bout. Et une autre chose que j'ai apprise aussi en lisant votre livre, c'est qu'une partie de cette maladie était liée directement aux séquelles de l'attentat qu'il avait eu en 1981, c'est
oui,
ça ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu, bon, il a été atteint de la maladie de Parkinson, comme on sait, mais qui était peut-être indépendante de l'accident, pas de l'accident, mais de l'attentat. L'attentat a quand même eu des conséquences assez désastreuses sur son organisme, puisqu'il a, les balles ont atteint des organes qui étaient quand même assez vitaux, sans pour autant qu'il en soit mort, mais ça a quand même touché certains organes, et particulièrement de l'estomac, et donc il a été, à partir de ce moment-là, extrêmement affaibli et fragilisé par les séquelles de ces perforations. Et donc, il a toujours pensé que Marie lui avait sauvé la vie, hein, puisque oui. La balle a buté contre la ceinture qui l'entourait, qui le saignait, et la ceinture a été comme une sorte de bouclier. Et il a toujours dit, quand on sait en plus qu'il a été, il y a eu une volonté d'assassinat le jour des apparitions de Fatima, ce qui n'est quand même pas rien dans la symbolique, il est allé porter la balle. Qu'il a fait sertir et qu'il a donné à l'hôtel de Fatima lorsqu'il est allé rendre visite au sanctuaire au Portugal. Et aussi, il a donné l'écharpe, hein, pas l'écharpe, mais la ceinture qui lui a sauvé finalement la vie. Et il a toujours dit que c'était la Vierge Marie qui le protégeait et qui, de toute façon, l'avait toujours suivi et que la Vierge Marie avait induit le parcours de la balle pour qu'il n'atteigne pas un organe vital définitivement. C'est une grande audace que de dire une chose pareille dans un XXe siècle qui a perdu la symbolique du sacré et qui, tout d'un coup, un homme reconnu, un intellectuel, ose dire à la face du monde, c'est la Vierge Marie qui a détourné la balle, qui a failli me tuer. C'est à la fois osé, courageux, et tellement plein de force pour ceux qui les entendent.
Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons encore continuer à apprendre de tout ce qu'a laissé hein, comme enseignement, comme belle encyclique, ce pape. Et on avait mentionné rapidement la dernière fois aussi toute la théologie du corps. C'est énorme aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs toujours en chantier, je crois, pour beaucoup de gens d'église et de fidèles.
Oui, je voudrais aussi de revenir, parce que j'ai pas forcément tout à fait répondu à votre question sur Lourdes tout à l'heure. Oui, effectivement, au bout de ses forces, Jean-Paul II est allé à Lourdes. Il était vraiment, c'était quelques mois finalement avant sa mort. Il est allé, c'était en août 2004, et il est mort donc en 2005. Au printemps, et donc il a eu un voyage tout à fait fabuleux. Hein. Moi j'y étais puisque j'étais un des invités du voyage pontifical, et donc j'ai suivi le pape dans toutes les cérémonies qui ont eu lieu à Lourdes. Et quand je me souviens très très bien, ça a été bouleversant toujours. Bon, il y avait toutes les prairies qui étaient pleines de monde. Enfin, il y avait des milliers de gens sur les prairies et des invités du pape et lui-même étaient devant la grotte. et on était là entouré dans un cordon de CRS ou de police, et puis nous étions juste derrière le pape. Et le pape était tout seul sur un prie-dieu, agenouillé sur un prie-dieu devant la grotte. Et là, il priait, et puis tout d'un coup, il a eu une sorte de malaise. Et je me souviendrai toujours, et je l'entendrai toujours, parce que tout était évidemment filmé, et il y avait de grands écrans sur les prairies qui permettaient de suivre la cérémonie. Et j'ai entendu de détresse de tous les pèlerins qui étaient là, et qui ensemble ont fait un « ah » de stupéfaction et de terreur, parce que vraiment on a cru que le pape allait tomber, qu'il avait basculé, heureusement il a été tout de suite rattrapé, mais il a eu un malaise. Et donc ce malaise a été l'objet d'un cri qui s'est répandu comme une onde sur la prairie et sur le parvis de cette grotte, qui était assez bouleversant et qui montre ô combien la communion que le pape avait provoqué entre lui, la Vierge, et la grotte, la Vierge et le pèlerin, eh bien, il avait suscité une émotion commune qui faisait que nous avions l'impression que c'était notre père, notre grand-père qui était en train de s'affaisser devant nous et qu'on voulait le sauver. Et il y avait quelque chose de très, très bouleversant. Ce sont à des détails près comme cela que Jean-Paul II nous appartient quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'il a réussi à nous donner beaucoup de force intérieure. Voilà ce que je pouvais dire sur cette anecdote de Lourdes, pardonnez-moi.
Très belle anecdote. Oui, non, mais c'était très intéressant.
J'étais content de raconter cette anecdote-là, parce qu'elle était très forte pour tout le monde, pour des milliers et des milliers de gens. Alors, en effet, le pape a écrit beaucoup de textes, il a tenté dans beaucoup de lettres encycliques et aussi de lettres apostoliques. Il a évoqué bien sûr la Vierge Marie et particulièrement en la reliant à la condition féminine, en la reliant au destin de la femme, en liant justement la femme et la Vierge Marie dans la même certitude qu'elles seules, les femmes comme Marie, sont les sentinelles de l'invisible, sont les sentinelles en ce sens que c'est elles qui sont aux avant-postes, c'est elles qui ont accès à l'invisible du monde, plus encore que les hommes. Et c'est cette force-là, il a toujours exercé, toujours initié le primat de Marie, et le primat de Marie est de là. Et je dirais de l'influence de Marie dans le monde. C'est pourquoi je suis toujours un peu agacé et même un peu en colère devant certains chrétiens dits de progrès qui attaquent la Vierge Marie mais Jean-Paul II de façon systématique au sujet de la Vierge Marie et au sujet des femmes. Je crois qu'elles font un contresens, ces personnes-là, elles font un contresens total sur ce que le pape pouvait penser au sujet de la condition des femmes et de la relation qu'il voulait entretenir entre elles et Marie.
Bien sûr, c'est important de le rappeler. Il y a des gens peut-être parfois des chrétiens qui ont des idées sur des choses qu'ils voudraient voir évoluer dans un certain sens, mais qui sont de leur propre idée. Et puis voilà, quand ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, ils sont déçus, forcément.
C'est clair. Et il y a beaucoup de... Vous savez, Jean-Paul II avait, à la fin de sa vie, évoqué deux cultures, la culture de mort et la culture de vie. Et donc il a toujours relié la femme à l'enfantement, il a toujours relié la femme à une certaine forme de la pureté, et ce sont évidemment des concepts que aujourd'hui des mouvements radicaux féministes et extrémistes ne peuvent pas admettre. Et donc le pape est aujourd'hui très attaqué, il faut quand même le savoir. Et je pense qu'il faut opposer à ces critiques, il faut opposer à ces mêmes à cette curée que quelquefois à laquelle on assiste. Il faut opposer la force de nos convictions et la force de notre prière et en même temps l'invoquer parce que ce que l'on ne dit pas assez, c'est que si Jean-Paul II est devenu saint, certes, c'est parce qu'il est passé d'abord par un véritable procès, comme on dit, en béatification, puis en canonisation, et que ces procès nécessitent l'exigence d'un miracle, voire de deux miracles. Et si on les a trouvés, évidemment, les opposants au pape peuvent nous dire aisément « vous les avez trouvés, mais c'est tiré par les cheveux », etc., etc. Mais j'ai toujours dit, en fin de compte, les miracles les plus importants, et qui pourrait justifier et légitimer absolument la sainteté de Jean-Paul II, c'est le miracle des conversions spirituelles qu'il a exercé dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui ont été convertis au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils ont été retournés, hein, converto en latin, hein, ils ont été retournés par la pensée et par la force et le charisme de cet homme. Et les conversions spirituelles, justement, elles ont cela de puissant aussi, c'est que elles sont généralement bien plus fortes que les baptêmes de naissance, si vous voulez, et les chrétiens de naissance. Ces conversions-là, elles sont réénergisées, hein, par ce qu'ils ont reçu. Je crois que là, c'est un élément important qu'on peut opposer justement à la violence des attaques que l'on peut observer ici et là.
Et voilà, un héritage, Saint Jean-Paul II, un héritage spirituel immense et encore à défricher encore, hein, aujourd'hui.
Oui. Mais totalement, oui. Il y a une phrase que je donne souvent à propos de Jean-Paul II, parce qu'il l'a donnée souvent à ses visiteurs, il me l'a dite, mais il l'a dite à d'autres aussi, hein, il disait « ne manquez jamais de vision ». Et cette vision, c'est celle, évidemment, c'est une parole très prophétique, hein. « Ne manquez jamais de vision », ça veut dire « ne restez pas là, devant vous, le nez sur le quotidien vulgaire même, hein, sur le quotidien banal. Non, et ne manquez jamais de vision, ça veut dire ayez toujours le projet, ou projetez-vous dans l'avenir, mais avec Dieu, avec cette grande force que vous donne Dieu, et Marie, bien sûr.
Alors on peut inciter, hein, voilà, les auditeurs qui nous écoutent à ne pas hésiter une seconde à se procurer donc ce livre, hein, Jean-Paul II, Vie et mort d'un géant, c'est aux éditions du Cygne. Voilà, Alain Vercondelet, merci beaucoup, hein, pour ces temps de partage.
Merci, merci à vous aussi.
Merci.
Et au revoir à vos auditeurs.
Merci, au revoir.
Au revoir.